Et on va terminer notre après-midi par l'intervention de Monsieur Gérald Bussy, qui est maintenant à Saint-Étienne, oui. Et qui va nous parler des dyspraxies développementales, ou du moins, oui, voilà. Hein, voilà. Vous allez voir. Allez.
Bonjour, donc merci d'être encore là. C'est jamais évident de terminer une journée comme celle-ci qui fut assez riche au niveau des interventions. Donc je voulais remercier les responsables de la FISAF pour l'invitation. Donc je vais vous présenter les dyspraxies développementales. Donc mon titre, il a un peu changé par rapport à ce qui est sur votre programme. Simplement parce qu'au début, je ne savais pas ce que j'allais vous présenter. Et après, je me suis dit, en fait, en tant que clinicien, ce qui est intéressant, c'est d'aller regarder au-delà du trouble moteur. Donc c'est pour ça que ça s'intitule « Les dyspraxies développementales au-delà du trouble moteur ». Donc vous allez voir que mon intervention va faire suite à l'intervention de Madame Lenormand, car je vais parler surtout des comorbidités qu'on a dans la dyspraxie développementale. Pourquoi ? Parce que c'est, comme l'a dit Madame Lenormand, c'est plutôt la règle que l'exception. Donc surtout dans la dyspraxie, on a énormément de troubles qui gravitent autour. Donc voilà, les troubles moteurs dans la dyspraxie sont assez bien reconnus. Après, c'est tous les autres troubles pour lesquels on ne fait pas forcément de diagnostic, parce que j'ai travaillé plusieurs années en centre de référence. Et quand on voit un enfant dyspraxique, une fois qu'on a fait le diagnostic de dyspraxie, on ne va pas forcément regarder tous les autres troubles qu'il a à côté. Donc, sauf si c'est évident qu'il a un trouble, mais il y a certains troubles qui sont assez insidieux, qui frappent pas le clinicien et qui pourtant vont gêner le jeune dans sa scolarité. Donc déjà, on va commencer par parler de la dyspraxie. Donc au niveau des définitions, donc c'est les praxies, ce sont des coordinations volontaires des mouvements qui sont orientées vers un but. Donc l'idée principale de cette définition, c'est l'idée de volontaire, parce qu'on voit chez les enfants des dissociations entre les automatismes et les aspects volontaires. Donc des fois, on a des enfants qui arrivent à faire des gestes de manière automatique et on se dit, mais voilà, il sait le faire, donc il n'a pas de trouble moteur. Or, c'est pas la dyspraxie, c'est vraiment les troubles au niveau des gestes volontaires. Donc la dyspraxie, une définition qui est assez ancienne, c'est qu'il s'agit d'enfants d'intelligence normale, ayant une relative facilité dans le domaine du langage, mais qui présentent des difficultés importantes sur le plan moteur et de l'organisation spatiale. Donc ça, effectivement, c'est la définition de la dyspraxie, un peu la dyspraxie pure, la dyspraxie idéale. Pourquoi ? Parce que ça ne prend pas en compte les comorbidités, notamment cette définition, elle enlève déjà tous les troubles du langage. Or, il y a quand même pas mal d'enfants dyspraxiques qui ont des troubles du langage associés. Donc déjà, tous ceux-là, ils ne sont pas censés être des dyspraxiques. Par ailleurs, donc ça c'est une petite parenthèse, la dyspraxie, on parle d'intelligence normale pour éliminer les déficiences intellectuelles. Or, maintenant, on se rend compte que dans le domaine de la déficience intellectuelle, il y a également des enfants qui présentent des dyspraxies. Donc ce n'est pas un trouble spécifique dans le sens où il est dans le cadre d'une déficience intellectuelle. Néanmoins, il y a des enfants déficients intellectuels qui ont des troubles moteurs de type dyspraxie. Donc un enfant dyspraxique, c'est un enfant qui est incapable de planifier, d'organiser, de coordonner des actions nouvelles en séquence. Donc ça représente à peu près 6% des enfants scolarisés, donc c'est un enfant dans une classe, et on a un sexe ratio qui est plus défavorable aux garçons, donc il y a à peu près 2 à 4 garçons pour une fille atteinte. Et donc là, on parle de la dyspraxie développementale, et en fait ce sont bien les dyspraxies développementales, il y a plusieurs types de dyspraxie, et donc c'est un ensemble hétérogène de troubles, il y a vraiment des grosses différences entre les troubles. Un problème qui est un peu spécifique, enfin qui n'est pas spécifique à la dyspraxie, c'est un peu général dans tous les troubles 10, c'est les difficultés de classer en fait. Dans la dyspraxie développementale, ça a été le cas. Donc depuis 40 ans ou 50 ans qu'on étudie un peu la dyspraxie, il y a eu de nombreuses dénominations qui ont jalonné ces années. Donc au début, on parlait de débilité motrice, après on parle de maladresse, on parle de TAC, trouble d'acquisition de la coordination, d'apraxie de développement en référence à l'apraxie chez l'adulte, d'infantilisme moteur. Maintenant, on parle de dyspraxie développementale. Donc c'est difficile pour le clinicien de s'y retrouver. Donc quand on essaie de chercher des écrits sur ces troubles, c'est compliqué parce que chacun y va de sa petite dénomination. Et forcément, quand on essaie de comparer les choses, c'est complexe. C'est aussi compliqué, la dyspraxie, parce qu'il y a de nombreuses classifications. Là, je vous en ai mis que trois. Donc, par exemple, le docteur Michel Mazot parle de trois types principaux de dyspraxie, dyspraxie constructive, idéatoire, dyspraxie idéomotrice. Christophe Loïc Gérard, lui, parlait de dyspraxie de type 1, de type 2, de type 3. Donc, parfois, ce sont les mêmes troubles, mais on ne les appelle pas de la même façon. Laurence Vèvre-Douré parle de trois types de dyspraxie, dyspraxie constructive visio-spatiale, idéomotrice, dyspraxie mixte. Certains vont rajouter la dyspraxie exécutive. Donc là aussi, au niveau des classifications, on s'y perd un peu. Donc soit on fait le choix de se référer qu'à une seule classification, et donc après on détermine le type de dyspraxie qu'a l'enfant en fonction de cette classification, soit on essaie de piocher un peu dans les différentes classifications, et là ça devient compliqué pour après se référencer à un modèle particulier. Donc une distinction aussi qui est intéressante à faire, c'est la distinction entre dyspraxie et TAC. Tout le monde ne la fait pas. Certains auteurs font vraiment la distinction entre ces deux entités et d'autres parlent de TAC. Dans le monde anglo-saxon, on parle effectivement de Developmental Coordination Disorder. Donc c'est un concept anglais qui j'ai mis un peu fourre-tout parce qu'on ne sait pas ce qu'il y a derrière cela. Est-ce qu'il y a effectivement des dyspraxies? Est-ce que c'est différents types de dyspraxies? Ou est-ce qu'il y a des dyspraxies plus des troubles d'acquisition de la coordination? Et Michel Mazot, elle dissocie bien la dyspraxie du TAC. Donc pour elle, la dyspraxie, c'est un geste qui est appris et qui est surtout culturel. Donc par exemple, nous, on mange avec des couverts, avec des fourchettes, et dans le monde asiatique, ils mangent avec des baguettes. Donc là, c'est bien quelque chose qui est appris. Et donc, si vous voulez vous mettre dans la situation d'un enfant dyspraxique, essayez d'apprendre à manger avec des baguettes. Donc, au début, vous êtes dans la même situation qu'un enfant dyspraxique. C'est assez compliqué de manger avec des baguettes. Et au bout d'un moment, effectivement, quand on mange plusieurs soirs de suite au chinois, on commence à s'améliorer. Il faut imaginer que l'enfant dyspraxique, lui, c'est comme si, en fait, il mangeait tous les soirs et qu'il apprenait jamais. Donc, en fait, moi, personnellement, quand je vais dans le restaurant chinois, le riz cantonné, je le finis à la fourchette. Parce qu'au bout d'un moment, en fait, c'est très compliqué de prendre le riz avec des baguettes. Donc, au début, c'est rigolo, mais au bout d'un moment, ça devient très compliqué. Donc, bon, voilà, j'abandonne et je passe à la fourchette. Et donc l'enfant dyspraxique, lui, il est dans ce monde-là en permanence. Alors que le TAC, pour Michel Mazot, elle, c'est un geste qui est naturel, inné, donc c'est tous les gestes moteurs qui sont tels que marcher, courir, ramper. Et c'est vrai qu'on rencontre des enfants qui ont des TAC, donc vraiment des troubles qui ont un développement tardif de la marche, qui vont avoir des troubles moteurs, un peu ce qu'on appelle la motricité globale, mais pas de troubles de la motricité fine. Donc ils n'auront pas de dyspraxie constructive, donc ils vont être capables de faire des épreuves de praxie constructive. Par contre, les gestes un peu globaux, ils vont être en difficulté. Et inversement, on a des enfants qui ont marché normalement, qui ont su courir, qui savent sauter et qui spécifiquement ont des troubles au niveau constructif ou au niveau visio-spatial. Donc on a vraiment déjà deux classifications et pas forcément reconnues par tout le monde. Donc maintenant au niveau des symptômes cliniques, un peu classiques chez l'enfant dyspraxique tout venant, donc c'est des signes qu'on retrouve à l'anamnèse quand on fait l'entretien avec les parents. Donc là j'ai mélangé les signes cliniques du TAC et de la dyspraxie. Donc on a une marche qui est généralement plus tardive, donc la moyenne de l'acquisition de la marche c'est 12-18 mois. Chez l'enfant qui a un trouble moteur, c'est plutôt 20-24 mois. Quand c'est plus tardif, là il y a peut-être d'autres troubles qu'une simple dyspraxie ou un simple TAC, parce que généralement il y en a des enfants qui apprennent à marcher à 36 mois, mais là c'est quand même très tardif. C'est des enfants qui sont généralement maladroits, donc ils vont tomber facilement, enfin plus facilement que les autres enfants. Ils font plus facilement tomber les objets qu'ils prennent. Donc c'est des enfants qui vont faire tomber les assiettes quand ils vont mettre la table, faire tomber les verres quand ils prennent un verre. C'est des enfants qui n'aiment pas, pardon, qui n'aiment pas les jeux de construction. Donc les parents disent non, il ne fait pas de jeux de construction. Donc après, on ne sait pas où est le j'aime pas faire le jeu de construction ou je ne sais pas faire. Bien souvent, les enfants qui ne savent pas faire ne vont pas aimer faire. Donc là aussi, on est sur une qualité de j'aime, j'aime pas. Et pourtant, peut-être qu'il y a un trouble derrière qui est l'incapacité à faire. C'est des enfants aussi qui vont avoir du mal à faire. Je vais y arriver. Qui vont avoir du mal à faire du vélo sans stabilisateur. Donc des enfants qui, à 4-5 ans, ont, voire même des fois 6-7 ans, encore les petits trous derrière le vélo pour pouvoir avancer. C'est des enfants qui n'aiment pas le coloriage, qui ne vont pas aimer non plus dessiner. Donc là, c'est des troubles qu'on va voir en maternelle, mais pas forcément des troubles qui inquiètent. Le trouble qui va vraiment inquiéter et qui va faire orienter l'enfant pour un diagnostic, c'est le problème d'écriture. Donc l'enfant qui, fin de CP, ben, il ne sait toujours pas écrire. Donc là, les parents vont commencer, et même l'enseignant va commencer à s'inquiéter, et on va dire, bon, là, il faut essayer d'aller voir un spécialiste pour essayer de voir ce qui pose problème. Les acquis sont instables aussi dans la dyspraxie. On a parfois des enfants qui acquièrent un geste et au bout d'un moment, ben, en fait, si on change quelque chose dans l'environnement, ils vont... Merci. Merci. Donc voilà, c'est des troubles, des acquis qui peuvent être instables. Donc, par exemple, une jeune fille dans l'IME où je travaille, donc elle a effectivement une déficience intellectuelle, mais elle a un trouble moteur qui est majeur. Donc cette jeune fille, elle n'est pas polyhandicapée, elle n'est pas IMC, néanmoins elle a un trouble de type dyspraxie. Donc son ergothérapeute, elle a mis un an pour lui apprendre à se servir du shampoing. Et au bout d'un an, l'ergothérapeute était très contente, elle avait réussi. Et les parents ont changé la bouteille de shampoing. Et là, elle ne savait plus se servir du shampoing, elle ne pouvait plus se laver les cheveux. Donc comme quoi, dès qu'on va avoir un acquis et qu'on va changer, c'était simplement la bouteille, donc pas la forme de la bouteille, mais certainement le système d'ouverture, donc peut-être que c'était à pression alors qu'avant, il fallait dévisser, et bien là, la jeune fille, elle était totalement perdue, elle ne savait plus se servir du shampoing. Et les troubles aussi varient, donc on a parfois des parents qui nous disent bah, « non, parce que des fois, il réussit très bien et des fois, il ne réussit pas le geste ». Donc on a vraiment des variations dans les troubles, dans l'expression des troubles, qui font parfois douter de la réalité du trouble moteur. Donc on a également d'autres signes, donc des signes neurologiques. Donc là, c'est le médecin qui les met en évidence et qui va les rechercher. Donc c'est ce qu'on appelle les soft signs. Donc c'est des enfants qui sont peu ou trop latéralisés, qui vont avoir une agnosie digitale également, des déficits graphesthésiques, des syncinésies, donc plus tardifs. Les syncinésies chez l'enfant jeune, c'est pas très grave. Quand vous avez des syncinésies à 8-10 ans, comme j'ai pu le voir chez certains enfants, là, ça pose quand même question. Donc, c'est pas des signes qu'on retrouve chez tous les enfants dyspraxiques, mais c'est des signes qui peuvent être indicateurs et qu'il faut rechercher. Donc, ça peut être aussi des signes neurologiques qui vont sous-tendre un trouble moteur. Donc, il va falloir faire la distinction entre le trouble moteur neurologique et la dyspraxie. Donc, ça sera au médecin de faire cette distinction-là. Donc pour certaines dyspraxies, on a des déficits visio-spatiaux. Donc là, c'est des difficultés de reconnaissance entre la droite et la gauche, que ce soit sur soi ou que ce soit sur des objets ou sur des personnes. Des enfants qui vont avoir des difficultés pour percevoir la vitesse ou la trajectoire d'une balle. Donc classiquement, c'est l'enfant qui, dès qu'on lui lance une balle, si on ne lui lance pas dans les mains, eh ben, en fait, il va se protéger parce que lui, il ne perçoit pas ni la trajectoire de la balle, donc lui il ne sait pas si la balle elle va lui atterrir dans les pieds, si elle va lui atterrir dans les mains ou dans le visage. Et il ne sait pas à quelle vitesse ça arrive. Donc il faut imaginer que vous avez un objet qui arrive en face de vous et vous ne savez pas où il va tomber ni à quelle vitesse il va tomber. Donc l'enfant dyspraxique, qui a un trouble visio-spatial, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il se protège le visage pour ne pas prendre le ballon dans la figure. Et sur le plan scolaire, c'est des enfants qui vont avoir des difficultés pour interpréter les diagonales ou les obliques. Donc une diagonale, ils vont la voir comme une verticale ou comme une horizontale. Et ça va changer à chaque fois. Donc on voit bien là les difficultés qu'ils vont avoir, notamment... Pardon, en géométrie. Donc, autre trouble qu'on retrouve très souvent chez les enfants qui ont des dyspraxies et qu'il faut rechercher là aussi à l'anamnèse, parce que ce n'est pas forcément les parents qui vont vous le dire, c'est la dyspraxie de l'habillage. Donc, c'est des enfants qui ont des difficultés pour s'habiller seuls, qui vont avoir des difficultés pour enclencher la fermeture éclair. Donc, les parents vont nous dire qu'il a mis très longtemps, donc maintenant, il sait faire, il sait enclencher la fermeture éclair, il a remonté. Mais par contre, il va toujours avoir des difficultés pour boutonner. Donc là, les boutons, c'est quelque chose qui est assez difficile, sauf les gros boutons ou de certaines vestes qui sont assez gros. Donc là, l'enfant va pouvoir y arriver. Mais les petits boutons des jeans ou des chemises, là, c'est très compliqué pour les enfants. Donc les lacets, généralement, les parents, ils ont abdiqué. L'enfant, il a des chaussures à scratch, c'est plus simple. Et donc après, les parents nous disent même pas si... En fait, l'enfant, on ne sait plus s'il sait faire parce parce qu'il n'a pas appris ou parce qu'il a un trouble moteur. Donc au bout d'un moment, les parents, de toute façon, ils ont dit non, mais on n'y arrivait pas, on a abandonné, il a des scratchs et ça va très bien. Donc après, c'est sûr qu'on adapte l'environnement, mais voilà, là aussi, le manque d'expérience peut entretenir le trouble. Donc c'est des enfants qui vont avoir aussi des difficultés pour mettre un pantalon à l'endroit. Donc si le pantalon il est présenté à l'envers, ils ne savent plus comment le remettre à l'endroit, idem pour le pull. Voilà. Donc ça, c'était les troubles moteurs qu'on a le plus classiquement. Et donc là où je voulais en venir, ce sont tous les troubles associés qu'on rencontre dans la dyspraxie. Donc on retrouve des dysphasies. Donc l'association entre dyspraxie et dysphasie, elle est à peu près 5%. Après, c'est peut-être un peu plus important. Le TDAH, il est très important dans la dyspraxie. En fait, il faut rechercher le trouble d'attention. Donc TDAH, c'est trouble déficitaire d'attention avec hyperactivité. C'est un diagnostic différentiel de la dyspraxie. Il m'est arrivé plusieurs fois de voir des enfants arriver pour un diagnostic au centre de référence pour un diagnostic de dyspraxie et repartir avec un diagnostic de trouble d'attention avec hyperactivité. Parce que l'hyperactivité... Elle va générer le fait que l'enfant, il écrit mal parce qu'il se précipite pour écrire, il colorie mal, forcément, il ne respecte pas les contours. Il est maladroit, il est hyperactif et il ne fait pas attention, donc il est maladroit. Donc les symptômes peuvent être les mêmes, mais l'origine, elle n'est pas la même. Et il est arrivé parfois d'avoir des enfants qui sont mis sous traitement psychostimulant qu'on donne dans le TDAH et qui vont beaucoup mieux après sur le plan moteur. Ils sont beaucoup moins maladroits et on a effectivement là la distinction entre le trouble moteur et le trouble d'attention. On a également des associations avec la dyslexie, donc là qui sont à peu près de 9%. On retrouve également des troubles de la mémoire de travail, de la mémoire à court terme verbale et surtout des troubles de la mémoire à court terme visio-spatiale. Donc ça, par expérience, c'est des troubles qu'on ne recherche pas dans la dyspraxie. Parce que c'est vrai qu'une fois qu'on a le diagnostic de dyspraxie, c'est ce que je disais au début, on ne va pas aller rechercher ces troubles-là. Et pourtant, bon nombre d'enfants dyspraxiques ont des troubles de la mémoire de travail. Et quand on connaît l'importance de la mémoire de travail dans tous les apprentissages, que ce soit pour la lecture, pour les mathématiques, pour l'écriture, donc pour pas mal d'apprentissages, on se rend bien compte que c'est un trouble surajouté pour ces enfants au-delà du trouble moteur. Ils vont avoir d'énormes difficultés. Après, en raison de ce trouble de mémoire. On a pas... Ça va être compliqué de finir. On a également pas mal de dyscalculies. Donc on a souvent effectivement des troubles des mathématiques associés à la dyspraxie. On retrouve également quelques troubles oculomoteurs et il faut également rechercher les troubles émotionnels chez ces enfants qui peuvent être réactionnels. Donc c'est des enfants qui sont en échec scolaire depuis pas mal d'années et qui, bah, au bout d'un moment, bah, le domaine affectif est également touché. Et on retrouve également des troubles émotionnels dans un syndrome qui est un peu plus rare, c'est le syndrome de dysfonctionnement non verbal. Donc là, c'est totalement autre chose, donc SDNV. Donc là, oui, on a également des troubles moteurs et des troubles émotionnels donc, et psychoaffectifs. Donc la question qui a déjà été abordée au cours de la présentation précédente, c'est est-ce que ce sont des troubles associés ou est-ce qu'il y a une seule cause à tout ça? Donc si on... Il y a deux perceptions. Les troubles associés, ce serait plutôt une perception modulaire des choses où chaque fonction cognitive est sous-tendue par une ou plusieurs aires cérébrales, même si c'est des réseaux, en fait, qui se développent indépendamment. Donc c'est un enfant qui a des troubles multiples, en fait, c'est un enfant qui a pas de chance, qui effectivement a des troubles moteurs, a des troubles du calcul, a des troubles d'attention. Et donc voilà, en fait, c'est un enfant qui cumule les difficultés. Donc lui, on veut dire qu'il a pas de chance parce que comparé à son petit copain qui n'aurait qu'un trouble moteur, bah, lui, il a plusieurs troubles. On peut voir aussi les choses différemment. Je vais finir la bouteille. Il y en a d'autres, oui. Donc on peut voir les choses différemment, c'est qu'il n'y aurait qu'une seule cause responsable des différents troubles. Donc là, on postule l'idée que les différentes aires, en fait, ce sont des réseaux d'interaction entre les régions cérébrales. Et donc un problème à un moment donné dans une zone cérébrale va générer des problèmes dans les autres parce qu'en fait, il va y avoir des mouvements sur les aires cérébrales. Et donc, il va y avoir des modifications qui vont faire que ces modifications à un endroit donné vont entraîner des modifications dans d'autres endroits. Et donc là, effectivement, un trouble dans un domaine va pouvoir entraîner d'autres troubles dans d'autres domaines. Donc une hypothèse de cause unique, donc là c'est une hypothèse théorique, hein, je précise que c'est pas la cause de la dyspraxie, c'est une des causes, donc qui a déjà été un peu amorcée par Madame Lenormand, c'est le trouble de l'apprentissage procédural. Donc la mémoire procédurale, c'est un système mnésique qui va vous servir en fait pour toutes les procédures perceptuelles, sensorimotrices et cognitives. Donc par exemple, pour la mémoire procédurale, c'est la mémoire qui vous sert à conduire. Donc pour conduire, quand vous conduisez, vous n'êtes pas en train de réfléchir en permanence à comment je dois débrayer, si je dois freiner, si je dois passer la vitesse. En fait, c'est quelque chose qui se fait naturellement. Parce qu'en mémoire, vous avez les schèmes moteurs. Donc en fait, c'est les séquences d'action qui sont stockées en mémoire et donc qui fonctionnent de manière automatique. Donc c'est l'automatisation des choses qui s'est faite, mais il y a eu une première phase qui est donc la phase d'apprentissage procédural, qui est donc là une première phase où vous devez automatiser le mouvement avant qu'il soit stocké en mémoire. Donc c'est l'hypothèse, c'est que le problème se situerait au niveau de cette première phase, au niveau de l'apprentissage. Donc quels sont les arguments en faveur La dyspraxie, c'est contagieux. Hein. La dyspraxie, c'est une difficulté pour planifier un nouveau mouvement. Donc on serait plutôt effectivement au niveau d'un apprentissage d'une séquence, plutôt qu'effectivement, comme je disais, au bout d'un certain moment, avec de la rééducation, l'enfant il arrive à acquérir le mouvement. Donc il a certainement acquis le schème moteur qu'il a stocké en mémoire procédurale. Alors que c'est la première phase qui va être très très longue parce qu'effectivement il a du mal à automatiser le mouvement. Il y a les données neuroanatomiques qui convergent entre l'apprentissage procédural et la dyspraxie développementale, donc on va voir juste après. Le modèle théorique qui a déjà été présenté, donc ça va me faciliter les choses. Et ce trouble au niveau de l'apprentissage procédural, ou au-delà de ce trouble de l'apprentissage procédural, au-delà, ce sont les aires cérébrales qui sous-tendent cet apprentissage procédural, permettrait d'expliquer le trouble d'attention qu'on trouve facilement dans la dyspraxie, les troubles du langage. Donc les autres troubles pourraient être expliqués par un problème au niveau de certaines aires qui sous-tendent l'apprentissage procédural. Donc au niveau des données neuroanatomiques, dans la dyspraxie, il y a plusieurs aires qui ont été mises en évidence, qui semblent poser problème. Donc au niveau du thalamus, donc c'est une aire cérébrale qui est sous-corticale, c'est pas au niveau du cortex, ce sont des ganglions qui sont au centre du cerveau. Le striatum également semble poser problème, donc là aussi c'est un des ganglions de la base, donc au cœur du cerveau, et également le cervelet, qui se situe à l'arrière du cerveau. Au niveau de l'apprentissage procédural, ce sont les mêmes aires qui sont impliquées. Donc là, il y a beaucoup d'études qui ont montré quels réseaux cortico-sous-cortical sous-tendaient l'apprentissage procédural. Donc c'est le cervelet, le striatum, l'intervention du thalamus également, et le lobe frontal. Donc on voit en fait les convergences entre les aires de l'apprentissage procédural et certaines aires qui ont été retrouvées comme problématiques dans la dyspraxie. Donc on peut imaginer qu'une atteinte de ces aires entraîne effectivement ce trouble de l'apprentissage procédural qui va entraîner le trouble moteur, donc la dyspraxie. Donc le modèle de Nicholson, donc je vais passer, donc lui, je vais passer rapidement parce qu'il a déjà été présenté. En plus, vous l'avez eu en français. Je n'ai pas été courageux jusque-là pour le traduire. Donc voilà, vous avez donc le problème au niveau de l'apprentissage procédural qui va s'exprimer de différentes façons et qui va permettre d'expliquer l'ensemble des troubles 10. Donc moi, je ne suis pas trop fan des modèles qui permettent d'expliquer l'ensemble des pathologies avec un seul trouble. Néanmoins, on peut penser qu'il y a quand même des... quelque chose qui se passerait au niveau, peut-être pas de l'apprentissage procédural, mais au niveau des aires qui sous-tendent l'apprentissage procédural. C'est peut-être pas forcément la fonction, parce qu'on peut aussi imaginer que le trouble de l'apprentissage procédural soit également une comorbidité. C'est pas forcément la cause, ça peut être aussi un problème en plus que les enfants dyspraxiques auraient, mais on peut imaginer tout de même qu'une lésion fonctionnelle ou structurelle au niveau des aires qui sous-tendent l'apprentissage procédural peuvent expliquer pas mal de troubles. Donc il y a des modèles théoriques également qui tentent d'expliquer la dysphasie par un trouble de l'apprentissage procédural. Il y a dans le domaine de la dyslexie la théorie cérébelleuse, donc développée par Nicholson et Fawcett. Donc voilà, donc on a plusieurs théories qui tentent d'expliquer certains troubles et qui peuvent permettre d'expliquer les comorbidités qu'on va trouver dans la dyspraxie. Donc là, une tâche qui permet de mesurer l'apprentissage procédural, donc c'est une tâche expérimentale, qui est donc une tâche de temps de réaction sérielle, où vous avez donc à l'écran d'un ordinateur quatre emplacements, et en fait c'est relativement simple. Donc bon, j'arrive pas à déplacer la souris. Donc vous avez quatre emplacements et il va y avoir une cible. Donc là, c'est un petit smiley. Et donc le participant a un boîtier et il doit appuyer en fait sur la touche qui correspond à l'emplacement où apparaît le petit smiley. Donc le smiley, il va apparaître à différents endroits, donc sur les emplacements. Donc il apparaît un peu n'importe où. Et donc la tâche du sujet, c'est simplement d'appuyer le plus rapidement possible sur la touche qui correspond à l'emplacement où était le smiley. Donc on définit des blocs, donc c'est on va faire 80 essais, après on va faire une pause, on va faire 80 essais. Donc ça c'est un bloc. Et dans ces blocs, en fait, ils peuvent être soit aléatoires, c'est-à-dire qu'en fait le smiley se déplace n'importe où sur les quatre emplacements, et c'est l'ordinateur qui va déterminer l'emplacement où il apparaît. Donc là c'est totalement aléatoire. Et donc dans certains blocs qui nous intéressent, on va déterminer une séquence, c'est-à-dire qu'en fait il va y avoir un ordre de déplacement et qui sera toujours le même. Donc par exemple, si on avait une séquence de 4, le smiley se déplacerait en 1, 3, 2, 4 et partirait 1, 3, 2, 4, 1, 3, 2, 4, 1, 3, 2, 4, donc il apparaîtrait toujours dans le même ordre. Et on s'attend en fait à ce que le temps de réaction diminue Dans les blocs où il y a un apprentissage de la séquence, c'est-à-dire qu'en fait, quand on va apprendre implicitement le geste, l'ordre moteur, en fait, on va diminuer notre temps de réaction. Et alors que dans les blocs aléatoires, il n'y aura pas de diminution du temps de réaction. Et donc c'est comme ça qu'on va mesurer l'apprentissage, c'est à travers la diminution progressive du temps de réaction et la différence avec la présentation aléatoire. Donc dans le domaine de la dyspraxie, il y a eu deux études actuellement, qui sont publiées. Donc la première en 2003 qui a montré que il y avait des différences au niveau des temps de réaction, peu importe, les enfants dyspraxiques sont plus lents, mais ça on va dire que c'est pas important. Par contre, ils ont la même courbe d'apprentissage. Donc là, les auteurs ont conclu que les enfants dyspraxiques avaient des capacités d'apprentissage procédural qui étaient comparables. Donc cette étude, elle a plusieurs problèmes méthodologiques. Et donc le premier, c'est qu'ils ont testé qu'une dizaine de sujets. Donc c'est quand même relativement peu pour aller dire qu'il y a un problème ou pas. Donc il y a une autre étude qui a été faite par un autre groupe et qui a montré là, en fait, qu'il n'y avait pas d'apprentissage procédural. Donc dans la courbe du dessous, en fait, donc la courbe pleine, ce sont les contrôles. Donc on voit clairement qu'au bloc 5, donc, qui est un bloc aléatoire, il y a une augmentation du temps de réaction parce qu'effectivement, là, il n'y a plus la séquence. Donc on remonte, alors que dans les blocs 2, 3, 4 et 6, il y a la séquence qui est répétée. Donc on voit bien effectivement que pour le groupe contrôle, ils sont de plus en plus rapides. Alors que dans les enfants dyspraxiques, eux, on voit que la courbe, elle descend progressivement. Donc, ce n'est pas qu'il y a un apprentissage de la séquence, c'est simplement qu'ils ont une dextérité manuelle qui s'améliore. Donc, en fait, ils sont de plus en plus rapides parce qu'effectivement, au début, on ne connaît pas trop la tâche. Puis, petit à petit, en fait, on la maîtrise de mieux en mieux. Et donc, le temps de réaction diminue. Mais comme il n'augmente pas au niveau du bloc 5 qui est aléatoire, il n'y a pas d'apprentissage procédural. Parce qu'on aurait dû observer une différence entre le bloc 5 et les autres blocs à côté. Donc voilà, donc on a deux études dans la dyspraxie qui montrent qu'il y a des différences. Donc c'est certainement le problème que j'expliquais au début, c'est que dans ces études, on ne sait pas trop quels sont les enfants qui sont sélectionnés. Donc c'est des enfants qui présentent un developmental coordination disorder, donc c'est un problème moteur, mais on ne sait pas trop lequel c'est. S'il y a différents types de dyspraxie, on peut imaginer que toutes les dyspraxies ne sont pas sous-tendues par le même problème, sinon il n'y aurait pas différentes dyspraxies. Dans les troubles du langage oral, il y a même des études qui ont été faites, donc après c'est pas forcément le même design expérimental, mais c'est le même type d'épreuve. Donc là ce qu'ils ont montré, c'est qu'il y avait des troubles de l'apprentissage procédural dans les dysphasies. Donc ça venait conforter le modèle théorique qui prévoit que la dysphasie est sous-tendue par un trouble de l'apprentissage procédural. Et donc nous, ce que nous avons fait, c'est une épreuve de temps de réaction sérielle chez des enfants qui présentent une dyspraxie verbale, c'est-à-dire c'est classé dans les dysphasies, mais c'est des enfants qui présentent un trouble moteur qui est général et qui touche également la sphère buccofaciale. Donc en fait, c'est des enfants qui ont des troubles moteurs et des troubles langagiers, donc des enfants qui sont très difficiles à rééduquer parce qu'ils ont de multiples troubles. Et donc ce qu'on voit clairement chez eux, c'est qu'effectivement il n'y a pas de troubles d'apprentissage. Et donc on a regardé les courbes d'apprentissage de chaque sujet pour voir si on n'avait pas certains sujets qui apprenaient et d'autres qui n'apprenaient pas. Parce que quand on fait des études, on fait des moyennes. Et donc quand on fait des moyennes, on sait qu'il y a certains enfants qui ont appris et d'autres qui n'ont pas appris. Nous, dans notre étude, on a été voir un petit peu de manière individuelle. Il n'y a aucun enfant qui présente une dyspraxie verbale qui a une courbe d'apprentissage normale. Donc ils ont tous ce trouble de l'apprentissage procédural. Voilà, donc nous, on partait de... Enfin, c'est une hypothèse qui est assez complexe. Et on pensait que c'est... parce qu'il y a des études qui ont montré avec certains... J'ai bientôt fini. donc il y a certaines études qui ont montré que dans la dyspraxie verbale, donc dans une forme de dyspraxie verbale qui était consécutive à une mutation d'un gène qui a présenté des troubles au niveau notamment du striatum. Donc on pensait effectivement que les troubles de cette population pouvait être dû à un trouble du striatum. Donc voilà, donc simplement pour conclure, je vais dire, peu importe s'il y a une hypothèse unique ou pas, si c'est l'hypothèse de l'apprentissage procédural qui explique la dyspraxie ou une forme de dyspraxie, parce que peut-être que l'apprentissage procédural ne concerne qu'une des formes de dyspraxie, peut-être qu'elle ne concerne que les enfants qui ont des troubles de la motricité globale, plutôt des TAC, et qui ne concerne pas, ça ne concerne pas la dyspraxie constructive, par exemple. Peut-être que ça ne concerne que les enfants qui ont une dyspraxie verbale, donc c'est-à-dire un trouble moteur plus général. Enfin, en tout cas, voilà, peu importe s'il y a une hypothèse unique ou pas, ce que je voulais vous faire passer comme message, c'est qu'il faut regarder les autres troubles à côté. Donc quand on a une dyspraxie, il y a très souvent un autre trouble à côté, donc il va falloir essayer de rechercher ces autres troubles, parce que ceux-là, ils peuvent passer sous silence et ils sont générateurs de difficultés scolaires. Et donc ça va avoir une importance pour les évaluations, parce que ça implique effectivement de ne pas se limiter une fois qu'on a le diagnostic de dyspraxie, il faut aller voir un peu au-delà. Et ça a aussi des implications pour les compensations qu'il va falloir mettre en place pour ces enfants-là, au niveau des aménagements pédagogiques par exemple, et au niveau des rééducations, parce qu'on va peut-être devoir envisager des rééducations par exemple de la mémoire de travail chez ces enfants-là, ou des fonctions exécutives, ou des troubles d'attention, s'ils présentent ce type de trouble. Voilà, je vous remercie.
Merci beaucoup, Monsieur Bussy. C'était très intéressant et vous avez fait un effort considérable quand même. Je vous en remercie. On va m'accuser de favoritisme, mais comme on a rattrapé au forceps notre retard, je suis prêt à prendre deux ou trois questions, s'il y en a, bien entendu. Aucune main se lève. C'est une dyspraxie ou c'est parce qu'il n'y a pas de questions? Voilà.
Levez-vous, madame. Levez-vous pour qu'on entende.
J'avais entendu que la mémoire de travail ne se rééduquait pas.
Alors, si. Alors, je peux vous en parler parce qu'en ce moment, je suis à fond sur la rééducation de la mémoire de travail. Alors après, moi, je regarde plutôt chez les enfants déficients intellectuels. Donc, en fait, il y a énormément de travaux, mais alors depuis en plus quelques années, il y a énormément de travaux sur la rééducation de la mémoire de travail, notamment avec ceux qui ont sorti le logiciel CogMed, qui est vendu aux ECPA depuis quelques mois, très récemment. Alors, je ne fais pas de la pub pour CogMed, hein, mais parce que j'ai pas d'action chez ECPA. Néanmoins, voilà, il y a de plus en plus de logiciels qui sortent. Et donc, voilà, CogMed, bon, après, on est, c'est bien, c'est pas bien, peu importe. L'avantage, c'est qu'ils ont fait énormément d'études avant de commercialiser leur outil. Et donc, par exemple, eux, ils ont fait des évaluations pour évaluer la rééducation chez les enfants TDAH. Donc, voilà, il y a des rééducations qui sont possibles. Chez les enfants déficients intellectuels, il y a plusieurs études. Il y en a beaucoup qui ont été faites chez des enfants qui porteurs de trisomie 21. Donc là, on sait plutôt, les recherches ont plutôt porté sur la composante mémoire à court terme verbale, parce que c'est vraiment là leur problème à eux. Il y a quelques études qui ont porté sur plutôt la mémoire de travail en général chez les déficients intellectuels. Il y a peut-être une ou deux études. Mais voilà, il y a de plus en plus d'études actuellement qui sortent. Alors après, il y a des études aussi qui sont faites chez les enfants et chez les adultes sains pour voir en fait comment améliorer l'intelligence. Donc c'est un peu le Graal. pardon. Et donc là, c'est des études qui ont été faites. Donc il y en a quelques-unes qui sont sorties depuis, on va dire, 3-4 ans, qui ont tenté de montrer qu'en fait, en stimulant la mémoire de travail, on peut améliorer le raisonnement. Voilà, parce que quand on raisonne, il y a nécessairement de la mémoire de travail. Donc après, est-ce que c'est de l'intelligence? Je ne suis pas sûr. En tout cas, une tâche de raisonnement nécessite de la mémoire de travail. Donc forcément, quand on évalue la rééducation donc, et si on stimule la mémoire de travail, on va avoir un impact sur la performance à la tâche. De là à stimuler les capacités de réflexion, c'est pas sûr. Voilà, en tout cas, il y a pas mal d'études qui vont dans ce sens, qui montrent qu'on peut stimuler les performances en mémoire de travail et qu'il y aurait des répercussions après sur les d'autres sphères comme l'intelligence. Donc voilà, moi j'ai fait une étude aussi qui a, chez des enfants déficients intellectuels, et on a montré qu'on avait des améliorations sur des épreuves de langage également chez ces enfants-là. Donc après, ça reste, enfin, faut confirmer, on va dire, mais voilà, il y a des possibilités en tout cas.
Une autre question? Allez-y.
Ah non, mais moi non plus. Non, c'est en fait les définitions, elles sont faites pour tenter de simplifier les choses, et souvent elles ont été faites au départ avec l'analogie avec ce qui était fait chez l'adulte. Parce que la neuropsychologie a commencé chez l'adulte avec les lésions cérébrales, et après on a essayé de passer au développement. Or, on sait que sur le plan développemental, c'est pas la même chose que chez l'adulte. Pourtant, on a essayé de faire un mimétisme pour que ce soit plus simple. Mais effectivement, je suis pas sûr que pour les définitions, on exclut, mais effectivement, on se rend compte de plus en plus qu'il y a effectivement des enfants qui cumulent. Comme je vous disais, dans les définitions, on exclut tout le temps la déficience intellectuelle. Or, travaillant auprès de déficients intellectuels depuis de nombreuses années, je me rends bien compte qu'il y en a qui ont des troubles du langage. Dans la trisomie 21, par exemple, c'est reconnu qu'ils ont un trouble du langage. Donc, après qu'on parle de dysphasie ou pas de dysphasie, on va dire peu importe, ils ont quand même le trouble du langage, il faut quand même les rééduquer à ce niveau-là. Il y en a qui font des parallèles avec certains types de dysphasie. Donc pour la trisomie 21, c'est plutôt une dysphasie de type phonologico-syntaxique. Donc ça, c'est Jean-Adolphe Rondal qui dit ça et qui est spécialiste de la trisomie 21 et du langage. Donc voilà, on peut faire des parallèles, et les entités ne s'excluent pas forcément, même si dans les définitions, elles s'excluent. Après, dans la réalité, non, ce n'est pas le cas. C'est bon?
Une dernière? Allez-y, madame.
Alors là, c'est pas forcément mon domaine, parce que là, c'est du domaine neurologique. Mais après, il y a tous les troubles moteurs ne sont pas des dyspraxies. Après, c'est au médecin de faire la part des choses. Est-ce que c'est un trouble moteur, donc trouble vestibulaire? Est-ce qu'il y a des troubles? Après, est-ce que c'est un enfant IMC? Est-ce qu'il y a une lésion cérébrale? S'il y a une lésion cérébrale, ce ne sera pas forcément une dyspraxie développementale, parce que ce sera quelque chose d'acquis. Donc après, il faut vraiment faire la distinction entre les troubles moteurs neurologiques et les dyspraxies. Mais voilà, c'est tout ce que je pourrais vous dire, parce que c'est pas... Donc après, s'il y a des médecins neurologues dans la salle, qui s'y peuvent répondre.
Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur Bussy. Quelques informations pour conclure la journée. Vous savez qu'il y a un dîner. Le dîner se passe exactement au même niveau, sur la mezzanine, mais à l'opposé de cette salle. Donc, c'est à côté des escalators, des escaliers mécaniques, à droite quand on descend et à gauche quand on monte. Donc, c'est à l'opposé de cette salle. Par contre, le vestiaire n'est pas assuré. Donc, il faudra que tous ceux qui pensent qu'ils peuvent laisser leurs affaires parce qu'ils viennent au dîner, c'est faux. On ne peut pas assurer le vestiaire, donc il faut reprendre vos affaires. Demain matin, quelques informations pour les ateliers qui démarrent à 10h précises. La salle 1, l'atelier 1, c'est ici. Les autres salles sont dans le couloir au même niveau. La salle I, elle est dans la continuité, et GH également pour l'atelier 3. Donc atelier 1 ici, atelier 2, salle I, et atelier 3, la salle GH. Je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à demain. Et merci pour votre attention. Au revoir.